Le journal présenté par Olivia Cohen. Bonjour Olivia.
Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas fui la justice, je me suis libérée de l'injustice. Carlos Ghosn n'est plus au Japon où il est poursuivi pour malversation financière. L'ex-PDG de Renault Nissan s'est réfugié au Liban, il le confirme ce matin. Nous ferons le point avec notre correspondant à Beyrouth. Chaque année, ce sont les premières images de la nouvelle année, les feux d'artifice illuminant le ciel de Sydney en Australie. Réjouissance maintenue ce soir alors que le pays est ravagé par des incendies et que des touristes sont évacués. Un choix qui fait polémique, vous l'entendrez. La traditionnelle cérémonie des vœux ce soir à la télé française, un discours d'apaisement promet Emmanuel Macron. Les syndicats n'en attendent rien, explication à suivre. Et puis c'est le moment de faire vos adieux aux pages blanches papier. Le fameux bottin n'existera plus en 2020. Et puis la question du jour, Benoît, il sera question de chômage.
L'année 2019 aura-t-elle été une bonne année pour l'emploi en France? Les bons résultats publiés notamment par l'INSEE montrent-ils une amélioration en trompe-l'œil? Comment analyser, décortiquer le chiffre de 8,6% de taux de chômage officiel dans notre pays? Nous serons tout à l'heure avec Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE.
Il n'a pas fui, il a simplement voulu échapper à un système judiciaire injuste. Voilà en substance la défense de Carlos Ghosn, qui confirme sa présence à Beyrouth au Liban. Ce matin, le patron déchu de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi attendait son procès pour malversation financière au Japon. Il y était en résidence surveillée, il a donc atterri hier à l'aéroport de Beyrouth. Aurélien Colli.
Oui, Carlos Ghosn est arrivé à Beyrouth dans la nuit de dimanche à lundi dans un avion privé en provenance de Turquie. Les circonstances dans lesquelles il a quitté le Japon pour rejoindre la Turquie avant d'arriver au Liban restent encore floues, mais les conditions de liberté surveillée qui avaient été posées par la justice japonaise précisaient que ses passeports étaient conservés par ses avocats. Par ailleurs, s'il était assigné à résidence à Tokyo, Carlos Ghosn avait la liberté de circuler à l'intérieur du Japon. Alors sa présence au Liban, ébruitée par des journaux hier soir, c'est lui-même qui l'a confirmé. Confirmé pendant la nuit par un communiqué transmis par son entourage, l'ancien PDG de Renault estime qu'il n'a pas fui la justice, mais qu'il s'est libéré de l'injustice et de la persécution politique. Il dénonce un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité. Je peux enfin communiquer librement avec les médias, ce que je ferai dès la semaine prochaine, indique encore Carlos Ghosn, qui devrait donc tenir une conférence de presse dans les prochains jours, ici à Beyrouth, où il est désormais relativement tranquille, puisqu'il a la nationalité libanaise. Puisqu'il n'y a aucun accord d'extradition entre le Liban et le Japon et puisque Carlos Ghosn, ici, jouit d'appui politique très fort.
Les précisions de notre correspondant à Beyrouth, Aurélien Colli. L'arrivée de Carlos Ghosn au Liban fait évidemment la une des journaux à travers le monde. On y reviendra en détail dans la revue de presse internationale d'Adrien Taufollet. C'est à 7h35. Charles Blégoudé, condamné à 20 ans de prison par contumace, l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens, est accusé dans son pays d'actes de torture, homicide volontaire et viol. L'ancien protégé de Laurent Gbagbo a appris sa condamnation à La Haye, aux Pays-Bas. Il y est en liberté conditionnelle. Après son acquittement par la Cour pénale internationale, il doit y rester en attendant l'examen d'une procédure en appel. Les islamistes somaliens Shebab revendiquent l'attentat à la voiture piégée de Mogadiscio. Attentat samedi dernier dans un quartier animé de la capitale qui a fait au moins 80 morts, dont deux ressortissants turcs. Le groupe terroriste a posté un message audio hier. Pour la première fois, les Shebab se sont excusés auprès des victimes civiles de cet attentat. Chaque année, la côte est de l'Australie est l'une des premières régions à entrer dans la nouvelle année. Un privilège accompagné d'un feu d'artifice grandiose donné par la ville de Sydney. Il est maintenu ce soir alors que d'intenses incendies ravagent le pays depuis plusieurs mois. Des touristes évacués ces dernières heures. Une pétition a même été lancée pour faire annuler les réjouissances et reverser l'argent aux pompiers, mais pas question, répondent les autorités. Un choix qui fait polémique, Grégory Pless.
En dépit de la crise que traverse actuellement l'Australie, où le risque d'incendie a de nouveau été élevé à son seuil maximal, la ville de Sydney a décidé de maintenir l'organisation de son célèbre feu d'artifice. Une décision qui divise les habitants de la plus grande ville d'Australie. Nous sommes allés à leur rencontre et beaucoup estiment qu'étant donné les circonstances, ils auraient dû être annulés. C'est par exemple ce que pense Jack.
Je trouve ça ridicule. Les services d'urgence sont déjà débordés. Les gens disent on a besoin de se distraire, de s'amuser un peu. Mais du coup, on fait venir des membres des services d'urgence à Sydney alors qu'ils portaient secours à des gens qui en ont absolument besoin.
À vrai dire, même les touristes sont partagés. C'est par exemple le cas d'Agnès, une Française venue passer les fêtes à Sydney avec sa fille qui étudie en Australie.
Je comprends la position des gens localement. Effectivement, je pense qu'on serait dans la même position. On préférerait que le feu d'artifice soit annulé. En tant que touriste, évidemment, ça nous ennuierait puisqu'on n'est pas venu spécialement pour ça, mais quand même, on est content de pouvoir voir le feu d'artifice. En tout état de cause, on se rend compte que le pays brûle et que ça, c'est un vrai souci.
Un souci que certains préfèrent oublier, juste le temps d'une soirée.
Et depuis hier, des dizaines de dégâts matériels signalés. Au moins 7 personnes sont portées disparues dans les États de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, dans le sud-est de l'Australie. Il promet l'apaisement, mais compte rester ferme les traditionnels vœux présidentiels. Ce soir, Emmanuel Macron devrait défendre sa réforme des retraites alors que la grève entre dans son 27e jour. Pas de sortie de crise en vue. Les négociations reprennent dans une semaine pile. Les syndicats aimeraient un abandon pur et simple du projet pour débuter 2020, mais ils ne se font pas d'illusions, Annabelle Grelier.
Le patron de la CGT, Philippe Martinez, attend que le président de la République, lors de ses vœux, reconnaisse que la majorité des gens ne sont pas contents et qu'il s'est trompé. Pour Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, il est grand temps d'appuyer sur le bouton stop et de retirer cette réforme. Pour Fabien Dumas, secrétaire fédéral de Sudrail, les vœux présidentiels sont un non-événement, compte tenu du calendrier des négociations fixé par l'exécutif du 7 au 22 janvier. « Je n'attends pas d'annonce », dit-il, sans aucune illusion. Que pourrait bien dire en effet le président Macron, sinon de rappeler que sa réforme universelle des retraites est un progrès social qui corrige de nombreuses inégalités, comme son gouvernement ne cesse de le dire depuis plusieurs semaines. Pourtant, les concessions se multiplient envers les policiers, les pompiers, les pilotes, les routiers, les marins ou encore les danseurs de l'opéra. Et que dire de cette clause du grand-père en termes de cohésion sociale entre les générations? Alors, pourrait-il tout du moins renoncer à l'âge pivot et faire revenir la CFDT de son côté? Cette mesure ne faisait pas partie de la réforme annoncée et elle n'a fait que faire glisser les syndicats les plus réformistes du côté des contestataires. Une réforme dont quasiment seul le patronat se réjouit peut-elle être sérieusement considérée comme une avancée sociale? À moins d'une grosse surprise, difficile de croire qu'un discours de 10 minutes suffira à convaincre les syndicats qui, depuis 18 mois, enchaînent les rencontres avec l'exécutif. Caramel, bonbons et chocolat, voilà l'ambiance du côté de la CFE-CGC. Ce soir, je n'attends rien, assure François Auméril, le président du syndicat des cadres, mais surtout, pas de discours. On n'en veut plus de discours, j'en ai marre des discours.
L'allocution présidentielle, ce sera donc à 20h tapante ce soir. Des vœux que vous pourrez suivre en direct sur France Culture. Discours d'une quinzaine de minutes, un rituel inamovible et un exercice ultra maîtrisé, analyse Jean Garrigue. Il est spécialiste d'histoire politique à l'Université d'Orléans.
C'est quand même un rendez-vous très très attendu. Ça n'est pas à proprement parler un grand rendez-vous politique parce que il ne se dit pas des choses très importantes. Il ne s'agit pas de faire un programme de gouvernement, même pas un programme pour l'année qui vient. Mais en revanche, chaque mot est sous-pesé, chaque mot est décortiqué par la presse et par les Français. Il faut surtout prendre garde à être dans la compassion, dans la compréhension, dans la proximité avec les Français. Je pense que c'est quelque chose auquel ils sont de plus en plus sensibles. Tous les messages présidentiels du 31 décembre se sont adaptés en fait aux circonstances. Si on prend les deux grandes crises sociales de la 5e République, celle de mai 68 et celle de l'hiver 1995, on voit que le général de Gaulle avait évoqué les événements de mai 68 lors du 31 décembre de la même année et que Jacques Chirac lui aussi en 1995 a évoqué le 31 décembre ce qui venait de se passer. Alors le premier, Charles de Gaulle, je dirais en restant droit dans ses bottes, tandis que Jacques Chirac était très compassionnel, essayait de faire oublier la tension qui avait existé, la crise sociale de 1995.
Jean Garrigue, spécialiste d'histoire politique à l'Université d'Orléans, interrogé par Pierre Neveu. L'an dernier, en pleine crise des Gilets jaunes, les vœux d'Emmanuel Macron ont été suivis par un peu plus de 11 millions de téléspectateurs. Ce matin, trafic toujours ralenti. Un dépôt de bus est bloqué à Paris. 5 autres sont perturbés. Trafic perturbé dans les gares et les les métros. Seulement la moitié des TGV et TER, un intercité sur 5 et un quart des transiliens. À Paris, deux lignes de métro sont fermées et le trafic est partiel sur 12 d'entre elles.
7h10 sur France Culture, c'est le journal d'Olivia Cohen. Olivia, l'annuaire téléphonique en papier, c'est bientôt fini. Il est relégué au rang d'antiquité.
Eh oui, il ne vous sera plus distribué l'année prochaine. Il faudra vous rabattre sur sa version numérique en ligne. Sauf que 7 millions de Français pas très connectés risquent de rester sur le carreau, Cédric Hermel.
Ce sont plusieurs générations de Français qui vont arrêter de chercher un numéro de téléphone inscrit sur papier à partir de décembre 2020. La fin d'une institution parue pour la première fois en 1796 et surnommée Bottin à cause du nom de son créateur Sébastien Bottin. Tout se passera par le numérique désormais, ce qui n'est pas forcément une avancée pour le sociologue Dominique Volton.
C'est un danger sociologique, anthropologique, ontologique. L'homme ne peut pas avoir qu'une seule médiation par rapport avec le monde extérieur. Il faut du papier, il faut de l'image, il faut du son, il faut de la donnée, il faut de tout. Ce qu'apporte l'annuaire papier, c'est une idée de gratuité, d'universalité et de banalité. Parce que c'est là physiquement l'annuaire. Tandis que si on fait un peu de psychologie cognitive, ce petit écran, il nous sert à la fois à toutes les informations, à tous nos coups de téléphone affectifs, au cours de la bourse mondiale, à la météo, enfin à 100 milliards de choses. Le fait que toutes les informations du monde soient disponibles sur un petit clavier, c'est un appauvrissement incroyable pour l'homme, parce que ça lui donne un faux sentiment de toute puissance, et puis il n'y a plus de diversité.
Une évolution qui pourrait mettre de côté une partie de la population, selon Dominique Volton, celle qui n'utilise pas Internet, soit presque 7 millions de Français, selon une étude du cabinet Hootsuite qui date de 2018. Mais le changement était prévisible, selon l'économiste Dominique Roux, avec l'arrivée du Minitel en premier dans les années 80. Il est devenu inéluctable cette année avec la fermeture de l'usine toulousaine qui produisait les pages jaunes.
Cédric Hermel, en 2019, pour la dernière fois donc, 9 millions d'annuaires ont été distribués en France. La météo, attention aux brumes matinales sur la façade atlantique de la pointe bretonne jusque dans les Hautes-Pyrénées ce matin. Du soleil et des températures frisquettes en dessous de zéro, moins 1 degré à Évreux et Bourg-en-Bresse, sinon des moyennes entre 5 et 1 degré, 9 degrés à Perpignan et jusqu'à 10 degrés dans le Finistère. Vous écoutez les matins de France Culture. Avec vous, Benoît Bouscarel.
Merci Olivia Cohen. Dans un instant, on revient sur l'année économique et sociale 2019 avec notre invité Mathieu Plane. Dans la question du jour, les chiffres du chômage 2019 sont-ils bons ?